Bonjour Antoine Geoffrin. Oui, je lève les mains pour lancer des jingles, mais ils n'apparaissent pas.
C'est muet ce matin.
Alors, deux jours après l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, le Parisien aujourd'hui en France évoque ce matin l'avenir politique de Michel Barnier.
Le Français négociateur en chef de Bruxelles a chapeauté les négociations pendant 4 ans. Et à presque 70 ans, il pourrait connaître un nouveau destin national, rapporte Le Quotidien. Celui qui a été ministre des Affaires étrangères il y a 15 ans sous Chirac pourrait retourner au Quai d'Orsay pour remplacer Jean-Yves Le Drian qui, croit-on, partirait au régional en Bretagne. Pas question, répond l'actuel ministre. Autre hypothèse, que Michel Barnier se présente face à Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, parce qu'il est Macron compatible et des cadres de la majorité constatent l'absence d'un candidat crédible face au président de région sortant. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron devra lui ménager une place dans son dispositif, souffle un proche du président.
Et puis on file dans un des pays les moins touchés par le Covid à présent. Antoine, c'est la Thaïlande.
Oui, seulement 60 morts jusqu'à présent, alors que sa population est légèrement supérieure à la nôtre. Comment expliquer ces chiffres incroyables? Eh bien, Paris Match raconte que le Royaume s'est appuyé sur un vieux réseau de bénévoles, les Aor Sormor, littéralement les agents de santé des villages. Ils sont allés faire de la pédagogie avec des pistolets à température, des masques, du gel hydroalcoolique. Et puis le régime autoritaire a très vite réagi. Prise de température systématique dans les aéroports dès janvier, masque obligatoire, couvre-feu entre 22h et 5h, sous peine de prison immédiate et d'une très forte amende, l'équivalent de 4 mois de salaire. Depuis 9 mois, les frontières du pays sont fermées, les frontières terrestres, mais le revers de la médaille, c'est que le PIB du pays va chuter de 8%. Le tourisme en Thaïlande a perdu 80% de son chiffre d'affaires.
Aux États-Unis, à Nashville, Tennessee, l'enquête commence et pourrait bien prendre des semaines, voire des mois, rapporte le Tennessee.
Trois blessés dans l'explosion d'un camping-car hier, c'est du journal local. La police parle d'un acte intentionnel et le Quotidien publie une cinquantaine de photos sur son site et les clichés de 6 policiers qualifiés de héros. Hier matin, ils ont sauvé des vies en évacuant très rapidement les habitants menacés par la caravane qui allait exploser. Ils sont allés au devant du danger sans savoir ce qui allait se passer. Grâce à eux, tant d'innocents ont été sauvés. Ça, c'est l'hommage du maire de Nashville.
Restons aux États-Unis avec la seule femme dans le couloir de la mort.
Lisa Montgomery, 52 ans, doit être exécutée le 12 janvier au Texas, sauf si Donald Trump en décide autrement. Condamnée à mort par un jury populaire en 2008 pour le meurtre d'une femme enceinte de 8 mois, meurtre particulièrement atroce, elle avait tout de suite reconnu les faits. Cette femme souffre de troubles bipolaires, une enfance affreuse, des viols, une prostitution forcée, de lourds problèmes psychiatriques. Et voilà pourquoi des militants ont déposé une requête auprès du président Trump. L'équipe juridique de Lisa Montgomery craint que, compte tenu de son état, elle ne comprenne même pas les raisons de son exécution quand elle arrivera. Ses soutiens affirment que dans son état, l'effet dissuasif supposé de la peine de mort n'est absolument pas recevable.
Dans l'Obs, un article sur les mères célibataires.
Alors que le texte de loi sur l'ouverture à toutes les femmes de la PMA revient au Sénat en février, l'Hebdo nous fait lire les histoires touchantes de femmes célibataires qui ont voulu un enfant. Pour la fête des pères, je n'ai pas un papa, j'ai un monsieur graine, raconte Lila, 9 ans, née d'un don de sperme et d'une PMA. Faire un enfant en couple, ça n'est pas venu, explique sa maman, mais Olivia ne voulait pas renoncer à son désir d'enfant. Garance, de son côté, a adopté Simon à l'âge de 4 mois, seule, après une fausse couche et la découverte d'une double vie chez son mari qu'elle quitte. Et elle raconte le cheminement de l'enfant qui, un temps à l'école, inventait « Si, si, j'ai un papa, il va venir me chercher, il est au coin de la rue, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. » Il y a ce que l'on dit de vous aussi. Mon fils, né de PMA il y a 22 ans, n'a jamais souffert que du regard des autres et du manque de considération des institutions françaises, regrette Marie, qui refuse que les mères célibataires fassent parader leurs enfants pour prouver qu'ils ne manquent de rien et ne sont pas des délinquants. Enfin, Laetitia, quel est le point commun pour finir entre Zef, Herminig, Merlux, Girafon ou encore Kearney? Patricia, vous avez le droit de répondre aussi, hein.
Voilà, on répond la même chose.
Alors là, ce sont des mascottes. C'est la petite revue d'effectifs aujourd'hui dans le Télégramme. Parce que toutes les mascottes, en fait, ont la cote en Bretagne. C'est simple. Tous les clubs bretons en ont une. Seul le RC Van fait exception. Ça va de la girafe à l'hermine en passant par le bélier, le merlu. Les grosses peluches encouragent des équipes de foot, de basket, de rugby, de handball. Ça permet aux supporters d'entrer dans l'univers de l'équipe. Et pour les enfants, c'est un gros doudou, explique Glazik. Ah oui, pardon, Glazik. C'est la mouette géante des cyclistes de BNB.
D'accord, merci beaucoup Antoine Geoffrin. On va vous transformer en mascotte, vous, tout à l'heure. Merci et à demain.
À demain.